Bonjour. C'est mon avant-dernier message. Encore deux dimanches à me supporter. 8 mai et 22 mai. J'aimerais vous encourager à réentendre le message que Jonathan nous a délivré dimanche dernier. Très simple, très facile à entendre. Très facile à résumer aux autres. Non, c'était très, très riche. C'était ardu. C'était très profond, très fouillé. Et ça touchait où plaçons-nous notre identité. Et pour ceux qui ne l'ont pas entendu, je vous invite à aller sur notre site dans la partie audio. Et pour ceux qui l'ont entendu et qui ont peut-être dit, mais c'est presque trop. Olivier disait, il faudrait réentendre trois fois. Eh bien, on a l'audio. On a l'occasion de réentendre de cette manière-là. Je le dis parce que je ressentais dans la chapelle de prière tout à l'heure que souvent, le message suivant pourrait effacer le précédent. Alors que c'est tellement riche, la parole de Dieu. Moi, je fais partie de ceux qui apprécient que dans une église, ce n'est pas toujours le même bonhomme qui prêche dimanche après dimanche. Il y a une diversité d'intervenants, hommes, femmes, et c'est beau, c'est riche, c'est complémentaire. Merci encore, très cher Jonathan. Ce matin, j'ai envie de parler de la vie ordinaire du chrétien. Dans nos milieux, on aime l'extraordinaire. Et pourtant, à 99%, il faut le reconnaître, c'est la vie ordinaire qui nous occupe au quotidien. La vie chrétienne normale. Il y a 10 ans en arrière, alors que je commençais mon mandat dans cette communauté, ce n'était pas ici au chalet 3, c'était à la grande rue 16, j'ai presque oublié le numéro. Je commençais mon mandat, ça faisait quelques mois, et j'ai déjà prêché sur ce thème. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Michel, à l'époque, qui faisait du bénévolat de secrétaire, avait préparé un petit signet, légèrement cartonné, et vous pouviez repartir ce jour-là, on était en été 2002, avec ce signet, et puis dessus, scotcher une petite graine de sénévé. Moi, j'ai mis la petite graine de sénévé scotchée sur ma montre ce matin, pour me rappeler, parce que c'est vraiment mon illustration principale. C'est vraiment petit! C'est vraiment minuscule, une graine de sénévé. Et on pouvait partir avec ce signet pour se rappeler un petit peu la thématique de cette matinée. J'avais donc offert ce signet, ce minuscule grain de sénévé, avec l'idée principale de considérer que le Seigneur mettait à la disposition de chacun, à la disposition de chacune, pour cette nouvelle étape communautaire d'alors, et personnelle, une étape aussi personnelle, cette petite graine entre nos mains. Est-ce que des personnes s'en souviennent? Vous vous en souvenez, merci beaucoup. Mais qu'il s'agissait pas seulement de repartir avec le signet pour dire « est-ce qu'on a distribué jusqu'à moi ?» mais de repartir avec cette petite graine et puis pas la laisser sur le signet. Alors c'est imagé évidemment. Enlever le scotch, prendre la petite graine et la planter. Et la planter. Donc il y avait cette invitation et la laisser ensuite se développer. Nous étions donc tous invités à grandir, à laisser agir le Seigneur en vue de ce développement. À l'enseigne du moutardier, la graine de sénévé, la graine de moutarde, qui devient le moutardier et qui peut aller jusqu'à 3 mètres de hauteur. 10 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, 8 mai, en fin de mandat pastoral dans cette communauté, j'avais à cœur de revenir sur ce sujet et d'approfondir notre réflexion. Et pour ce faire, je vous invite à lire maintenant Marc 4, les versets 30 à 34, dans la version second 21. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre, dans certaines traditions, qui sont dans le potager. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes du potager et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans paraboles, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. J'aurais bien aimé être là quand il a expliqué cette parabole dans l'intimité, dans sa relation avec les disciples. Mais revenons maintenant à notre partage, le petit grain de Sénévé. C'est la première pensée que j'aimerais laisser ce matin. Le petit grain, vraiment petit, minuscule, tristounet, insignifiant. Je relis, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. À cette époque-là, certainement qu'aujourd'hui, avec toutes les modifications, c'est peut-être pas la plus petite semence. Mais à l'époque, dans le monde connu d'alors, c'était la plus petite semence. Le Seigneur ne s'y trompe pas. La première chose que j'aimerais souligner, et là je reprends le signet, il date de 10 ans en arrière celui-ci. La première chose que j'aimerais souligner, c'est que le pas personnel et communautaire que nous avons fait il y a 10 ans a compté pour le Seigneur. Ce n'était pas simplement un message, c'était une invitation à entrer dans cette nouvelle étape et à prendre cette graine et à l'accueillir comme étant importante, une image du royaume de Dieu et de la semer comme un pas de foi. Je crois que ça a compté pour le Seigneur. Nous avons considéré que cette graine de moutarde était une illustration pour montrer que le Seigneur ne méprise jamais les petits éléments. On cherche l'extraordinaire, alors qu'il aimerait si souvent, beaucoup plus, nous parler dans la simplicité, dans l'humilité, dans l'ordinaire de la vie. Le Seigneur ne méprise jamais les petits éléments. Il ne prise jamais les petits recommencements. Je dis recommencement parce que quand je suis arrivé, il y avait déjà 25 ans d'histoire. Donc je n'ai pas la prétention de dire que tout a commencé en été 2012. Il y avait déjà eu beaucoup de belles choses vécues en communauté. Mais c'était une nouvelle étape, comme un réengagement communautaire, comme vous le vivrez aussi le 21 août avec votre jeune pasteur. On se réjouit de l'accueillir parmi nous. Le Seigneur utilise des choses anodines pour nous parler de son royaume. Vous imaginez la plus petite des semences d'alors pour nous parler de son vaste royaume éternel. C'est impressionnant à mes yeux. Qui aurait pensé, à part Jésus, évidemment, utiliser la plus petite semence d'alors connue dans ce jardin potager pour nous parler avec cette petite semence petiote? J'ai regardé dans le dictionnaire, c'est français. Pour nous parler de croissance, pour nous parler de développement, ce grain est tellement petit, est tellement quelconque. On se demande comment il peut par la suite devenir aussi grand, aussi robuste, pour permettre un moutardier de 3 mètres. C'est une semence très fertile. La graine de Sénévé est une semence très fertile. Lorsqu'elle a été semée, elle monte et devient plus grande que tous les légumes. Alors je pose la question 10 ans après, et vous avez levé la main, vous vous êtes rappelé, que vous êtes reparti avec le signet. Notre moutardier a-t-il poussé en 10 ans? La semence a-t-elle poussé? Avons-nous grandi spirituellement parlant durant ces années écoulées? Avons-nous grandi? Avons-nous vécu une belle poussée sur le plan communautaire? Je le pense et je le crois. L'Église a élargi sa tente. Nous avons assisté à une croissance Oh, c'est pas le réveil d'Afrique du Sud ou d'Argentine ou de Corée du Sud, mais nous avons vécu une croissance à la fois quantitative et qualitative. Nous sommes plus nombreux qu'auparavant, nous avons aujourd'hui de beaux nouveaux locaux, et au niveau de nos activités, nous avons approfondi notre vision, nos missions, nos objectifs. Nous avons vu également un développement réjouissant au niveau de notre vie communautaire, la vie communautaire ordinaire, par exemple avec de nouvelles activités qui ont vu le jour dans ces années écoulées. Écoute et accompagnement, espace prière, groupe prière et discernement. On a créé ensemble avec les autres confessions chrétiennes le groupe œcuménique régional. Aujourd'hui, nous l'appelons Ensemble pour l'Évangile. Ce n'est pas juste une petite célébration pour la forme au mois de janvier. On vit quelque chose d'intense ensemble. Nous étions encore les collègues ensemble ces jours-ci. Et puis la reprise du parcours Alpha Live. Et à ce sujet, j'ai été touché parce qu'il y a 10 ans, un membre du conseil d'anciens, qui aujourd'hui s'appelle le conseil pastoral, m'a dit à cette époque, parce que j'ai posé la question, est-ce qu'il y a dans la communauté, l'église évangélique de Cossonay, un parcours Alpha Live? Et la personne était triste, elle était un peu embarrassée, puis elle m'a dit, « Oh, tu sais, Roland, on aimerait bien reprendre un tel cours, mais nous manquons d'énergie, nous manquons de force vive, nous n'avons pas assez de ressources. » Je pense que la personne s'est reconnue, et elle avait raison. Ce n'était pas un regard négatif, ce n'était pas défaitiste, c'était la réalité d'alors. Pourquoi je vous en parle? Parce que Dieu n'a pas regardé à nos faibles moyens pour remettre sur les rails, par exemple, Alpha Live. Et ce parcours est béni. On en parle encore ces jours-ci avec des participants. Il y a eu des conversions, il y a eu des renouvellements de chemin de foi des participants. Donc il y a eu de belles activités. Plus récemment, je pense aussi aux repas communautaires que nous pouvons maintenant vivre ici. Et puis, il y a ce que j'appelle toutes les activités habituelles qui tiennent la route. Une belle école du dimanche, la vie culturelle, le culte. Je crois qu'on peut dire qu'on vit de beaux cultes dimanche après dimanche. Et puis, les soirées de prière qui ont été revisitées. Il n'y a pas que Top Chef qui revisite les bons repas. Ça a été revisité et nous l'appelons interface. Et puis, bien sûr, les camps d'été, d'hiver, les week-ends. Et c'est chaque fois des moments forts et bénis. Et sur le plan personnel, avons-nous le sentiment que nous avons grandi en maturité chrétienne? C'est peut-être plus délicat, plus facile de constater un petit peu un sympathique développement communautaire, mais nous, en tant que chrétiens, avons-nous grandi en maturité chrétienne? Par exemple, dans notre histoire d'amour avec Jésus, dans nos traits de caractère d'enfant de Dieu, là où ça grinçait, dans notre hardiesse de témoignage de l'Évangile, là où nous sommes parfois tellement timides. Oui, on peut espérer que notre moutardier a poussé et s'est même affermi. Alors pourquoi est-ce que j'en parle? Ce n'est pas pour nous targuer, certainement pas. Ce n'est pas pour dire « bravo, église de Cossonay, évangélique de Cossonay, bravo, chrétien, tu as développé ». Ce n'est pas du tout pour nous targuer d'avoir réussi, absolument pas. Si j'en parle, c'est pour montrer que nous avons vécu une croissance juste, normale. C'était juste normal. Des encouragements expérimentés au fur et à mesure. Et j'appelle cela la théologie des petits pas. C'est-à-dire un pas après l'autre. Oh, on n'a pas été témoin d'un réveil spectaculaire dans notre région. On n'a pas expérimenté une croissance explosive. Par contre, nous avons vu la bonne main agissante de notre Seigneur. Et nous en sommes vraiment reconnaissants. Le mardi 8 février, nous avons reçu ici même la pastorale frais. Et comme c'était ma dernière pastorale en tant que pasteur en charge d'une communauté de la frais, ils m'ont demandé, les collègues, de partager un message en matinée. Et j'ai déjà parlé de ce sujet qui nous occupe ce matin. Alors, je l'ai partagé autrement. Là, je l'ai complètement retravaillé pour ce matin. Et les pasteurs, vous savez, souvent, on se met tellement de pression. Les dernières années, dans les retraites des pasteurs de la Frey à Wilderswil, on parlait tout le temps de croissance d'église. J'avoue qu'à la longue, quand on a 40 ans de pastorat, ça entrait là, puis ça me sortait un peu là. Ça me fatiguait tout le temps, la méthodologie, la stratégie, la croissance. Ça devenait un peu pénible pour moi. J'étais pas le seul. On se met tellement de pression concernant la croissance de l'église. Et ils m'ont dit, après mon intervention toute simple, combien ils avaient apprécié ce langage, excusez-moi de le dire, réaliste, qui leur permettait de se détendre, comme si la pression, on avait le droit qu'elle tombe, et de laisser faire le Seigneur, faire l'effort de laisser faire le Seigneur dans nos vies. Chers frères et sœurs, laissons la graine de s'élever, grandir dans nos vies, mes chers amis, au rythme de Dieu. Ce n'est pas à nous de donner la cadence. Nous risquerions soit d'aller trop vite et d'essouffler les autres, soit d'aller trop lentement et puis d'endormir les autres. Nous avons dit jusqu'à maintenant notre réflexion que nous avons eu entre nos mains cette petite graine de s'élever, tout enfant de Dieu. Cette semence est pleine de vie. Elle a été plantée dans notre cœur. Elle est en train de pousser. Voyez-vous, j'ai réalisé, on aimerait souvent prendre des raccourcis. Vous avez déjà remarqué? Et aller beaucoup plus vite que la volonté de Dieu. Et pourtant, faut-il le rappeler, la maturité s'acquiert jamais en un clin d'œil. Elle s'acquiert avec le temps. La sagesse, quand on dit « cette personne est pleine de sagesse », on ne va pas le dire une semaine après. On va le dire parce qu'elle a été éprouvée et c'est avec le temps aussi. Il en est de même pour les fruits. On ne va pas avoir un arbre et puis paf, les fruits le lendemain, c'est bon. C'est aussi avec le temps, au moment opportun, quand la récolte arrive. Je vous partage quelques exemples concrets qu'on entend souvent dans nos milieux, y compris ici. On soupire tous après plus de guérison. Mais je m'excuse, on ne peut pas fabriquer les guérisons. C'est la souveraineté de Dieu, c'est l'intervention de Dieu. On aimerait plus de guérisons, on aimerait des guérisons rapides de préférence. Alors, on a raison de prier pour la guérison, mais laissons faire le Seigneur. On souhaiterait que nos enfants se convertissent, si possible, lorsqu'ils sont en âge adulte, vers 17, 18 ans, et puis qu'ils puissent participer au groupe interjeune. Moi, j'avais tellement envie que mes enfants se convertissent dans cette période de leur vie. Et j'ai dû attendre beaucoup d'années pour qu'ils vivent une ouverture. En tout cas, aujourd'hui, il y en a trois qui vivent cette réalité. Mais voilà, j'avais reçu des promesses, mais ça a duré et ce n'est pas fini. On voudrait tant que notre conjoint satisfasse sans trop tarder nos critères et notre perception des choses. On aimerait que le cadre professionnel soit comme ceci ou comme cela. Et le constat est souvent difficile à accepter. Et c'est alors un découragement qui s'abat sur nos personnes. Particulièrement, ceux qui sont particulièrement enclins à vivre cela, une espèce de désespérance, de ras-le-bol, ce sont ces personnes qui ont tout le temps envie que de grands trucs hyper puissants et hyper spirituels se produisent. Et comme on est dans l'ordinaire et que ça ne se passe pas comme ça, ils sont souvent frustrés. Le développement du moutardier. Il développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Et pourtant, mes amis, les choses ont avancé, mais au rythme de Dieu. Souvent, on ne s'en rend même pas compte. Des fois, quand on demande des témoignages à des personnes, serais-tu d'accord de rendre un témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie, dans l'année écoulée ? Les gens sont embarrassés. Parce qu'on cherche quelque chose d'assez incroyable à raconter. Mais la fidélité de Dieu, elle est réelle aux multiples facettes. On ne s'en rend même pas compte, même plus compte, car nous attendons des choses extraordinaires, nous nous focalisons sur ceci ou cela, et nous passons à côté de ce que Dieu est en train d'accomplir dans l'ordinaire de la vie de tous les jours. J'ai parlé de ce message, Andréa. toujours risqué de parler d'un message avant de le donner à mon épouse. Elle m'a demandé ce que je comptais, c'est bientôt à toi, ce que je comptais souligner dans ma réflexion. Je lui ai résumé ce qui m'habitait ces temps-ci, ça fait quoi, maintenant une bonne semaine. Et je lui ai dit, ben voilà, nous avons tous dans les mains une graine de moutarde, peut-être que nous nous disons que cette minuscule semence est trop petite pour qu'elle porte du bon fruit. Mais attention, ne nous trompons pas, ce grain de sénevé n'est pas un produit humain. Il appartient aux valeurs du royaume de Dieu. C'est Dieu seul qui produit la vie, je ne peux pas fabriquer la vie à partir de quelque chose de tout petit, d'insignifiant, de ridicule. C'est Dieu qui agit. Cette semence, elle est très vivante parce qu'elle contient la vie de Dieu, la vie d'en haut. C'est ce qui fait toute la différence. C'est pourquoi ne méprisons pas nos petites avancées. Ne méprisons pas nos progrès. Même s'ils sont lents, même si nos résultats sont médiocres dans l'exercice de notre vie chrétienne normale. On peut aussi comparer cette semence à la fiole d'huile qu'on utilise les anciens pour une onction d'huile. Vous savez comment est la symbolique. L'huile en tant que telle, qui est puissante, elle n'a aucune puissance, mais la symbolique que nous exprimons permet l'intervention de Dieu. Je pense aussi à la Sainte Cène. J'ai préparé une petite assiette et un petit godet tous les dimanches, ou presque, quand on prend la Sainte Cène, eh bien, là aussi, c'est pas, la vie n'est pas dans les éléments, mais le fait d'appeler le Seigneur, d'appeler cette vie circulaire, Dieu se manifeste. Je vous ai dit que j'ai eu une conversation avec mon épouse, et en m'écoutant parler de graines de sénevé, elle m'a fait un retour qui m'a brusqué. Elle a, de son côté, pensé, elle, au grain de blé. Nous allons lire Jean 12, versets 20 à 26. Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus ». Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Sur le moment, quand elle m'a parlé de sa graine de blé, alors que moi j'étais encore depuis tout un temps sur la graine de sénevé, je l'ai écoutée religieusement, poliment, sagement, mais ce qu'elle me partageait venait un peu m'embrouiller par rapport à ma réflexion. J'y voyais même un peu une confusion. Pour moi, c'était intéressant ce qu'elle me disait, mais pas spécialement le même sujet. Et en plus, je ne comprenais pas le langage utilisé par le Seigneur lorsqu'il disait « si le grain de blé ne meurt ». Et je me questionnais, mais alors si le grain de blé meurt, alors il n'y a plus de vie. Comment comprendre ce que Jésus cherche à me dire dans ce texte, dans cette parabole, à nous dire? Bien sûr, je savais que Jésus, vous allez me le dire à ma place, vous pourriez le dire à ma place, que Jésus utilisait cette image pour parler de sa propre mort et de sa résurrection ensuite. Mais pourquoi aller jusqu'à dire que le grain de blé, l'illustration vivante, agricole du grain de blé, doit mourir? C'est durant ma semaine de débriefing en France, à 350 km d'ici, que j'ai alors saisi le sens profond et que j'ai pu faire le lien avec ma fameuse graine de sénevé. Mais avant de vous apporter ce témoignage, viens maintenant ma chère réflexion. Je vais laisser la parole à mon épouse qui avait à cœur de vous partager deux réflexions par rapport à ce grain de blé appelé à mourir.
Bonjour. Avant de donner mes deux petits témoignages sur ce sujet-là, Je vais obéir au Seigneur par rapport à ce que Bernard a reçu ce matin de tellement important. Et puis, j'ai ressenti quelque chose dans mon cœur, une phrase. Et tout mon être est en harmonie avec cette phrase. J'ai tout d'un coup ressenti un amour pour vous. Et cette phrase, c'était, vous savez, je vous aime tellement. Et je regardais la salle et je me disais, c'est vrai, j'aime tellement mes frères et sœurs. Et puis, cet amour que je ressentais, en fait, j'ai réalisé que c'était Jésus en moi, uni à moi, qui le ressentait aussi tellement pour vous. Alors, je vous le dis, je vous aime tellement. Pas toujours l'occasion de l'exprimer, mais c'est vraiment là. J'ai eu l'occasion dans mon travail de suivre une formation sur la gestion des conflits. Et puis, ces thérapies de langage non violent, de communication non violente. Et j'étais dans un groupe de beaucoup de personnes, de mes collègues, dont une grande majorité d'étrangers d'autres continents et aussi beaucoup de musulmans. Et pendant 6 lundis, on était en formation et on voyait que les outils qui étaient proposés, ils étaient très aimé, mais d'une semaine à l'autre, de la mise en pratique, pour les gens des autres cultures, ben, c'était vraiment difficile. Parce que si on partait du principe que dans un conflit, il faut un gagnant et un gagnant, la plupart de ces personnes étaient dans des situations familiales, mais aussi professionnelles, où il y avait un gagnant et eux étaient les perdants. Et c'était dur pour eux, vraiment. Parce qu'ils ne pouvaient pas mettre en pratique simplement les outils, ça ne marchait pas. Et les médecins, les psys qui nous formaient, ils étaient un peu démunis de se rendre compte que suivant dans quelle culture on est plongé, eh ben, c'est très dur. Ça ne se passe pas aussi simplement que cela. Puis un autre jour, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un autre groupe de personnes. Cette fois-ci, c'était un groupe de personnes que moi j'appelle gris, donc concernées par les défis qui touche le genre, les relations, l'identité, la sexualité. Et on parlait aussi de la gestion de conflits. Et je dirais, dans cette classe de la population, les relations sont hyper importantes. Ça touche le lieu. Et touche vraiment le corps, l'âme, je dirais même l'esprit de la personne, parce que ça touche le lieu où on adore, où on est attaché au plus haut point. Et la gestion des conflits, elle est aussi très difficile. Et il y a eu une remarque de quelqu'un qui disait, ben moi je sais que si je veux garder le lien, et vous savez qu'on est dans des liens parfois qu'on ne peut pas casser, si c'est nos enfants par exemple, si c'est notre conjoint, si c'est notre patron ou d'autres, mais ça peut aussi être dans des relations amoureuses. Eh bien, chaque fois que je prends sur moi, parce que j'aime la paix et j'aime l'unité, j'ai l'impression que je n'existe pas et qu'il y a une partie de moi qui meurt, qui disparaît, et j'existe moins. Et puis on faisait un tour de table, comment on ressentait par rapport à ça, et j'ai dit, c'est marrant, parce que moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une partie de moi qui meurt dans ce genre de situation, mais comme c'est mon choix, j'existe encore plus, et je n'ai pas l'impression que c'est perdu pour toujours. Puis on s'est mis en prière, puis j'ai eu tout d'un coup une image, et je voyais cette partie de ma vie. Alors, ce n'était pas une graine de CNV, c'était vraiment une grosse graine qui représentait une partie de ma vie et toutes les fois où j'ai choisi quelque part de me retirer du conflit parce que j'aime la relation, la paix, et je voyais que de toute façon, on n'allait pas pour la vie communiquer parce que tout simplement l'autre ne voulait pas. Il y a une partie de ma vie comme ça qui s'est échappée. C'est du temps, c'est de l'énergie. Mis ensemble, ça représente des années de vie, une partie de la jeunesse, de tout ce qu'on a de plus précieux. Mais cette graine, elle était toute vivante devant moi. Et le Seigneur me disait, si tu me la donnes, regarde ce que je peux faire. Puis c'est comme si les mains de Dieu accueillait ce cadeau que je lui offrais, parce que Dieu sait que c'est une partie importante de nos vies, de ma vie. Puis il l'a pris, puis il l'a plongé comme ça dans de l'or, il l'a ressorti, il l'a replongé dans l'or 2-3 fois, et tout d'un coup ça devenait mais quelque chose de tellement admirable, qui était à la forme de beaucoup de choses que j'avais vécues dans ma vie. Et il me disait, bah, tu vois, je peux la mettre là, tout le monde va la voir, et tu vas recevoir tellement de signaux de reconnaissance d'avoir fait ça. Tu vois, c'est pas perdu. Et puis, le Seigneur a continué. Il a dit, mais ça, c'est une façon de voir les choses. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Mais je peux faire autre chose. Je peux la prendre, je peux l'enterrer. Et puis, vous savez qu'enterrer, planter, c'est le même geste. C'est seulement au bout d'un moment qu'on voit que, eh ben, on a fait deux choses totalement différentes. On l'a enterré, mais en fait, on l'a planté. Et tout d'un coup, cette graine qui ressemblait un peu comme à une graine de café gigantesque, mais par exemple, c'est un peu le, je crois, le système des noix de coco. Eh ben, l'eau a pénétré, l'humidité de la terre a commencé à travailler l'intérieur de la terre dans les profondeurs, l'a pénétré, a fait éclater le bord et commençait à sortir la vie de tout cela. J'ai dit au Seigneur, mais moi c'est ça que je veux. Je n'ai pas du tout envie que ce soit quelque chose de connu, de visible, pour lequel je reçois de la reconnaissance. C'est quelque chose de caché, c'est entre toi et moi, mais tu sais quoi en faire. Et pour la plupart d'entre nous, ça vaut beaucoup de larmes. Et surtout, on perd le sens des choses souvent dans ces moments-là, parce qu'on a l'impression de perdre, et on perd vraiment. C'est réel. Aux yeux du monde, on est fou, quoi. Et puis, ça m'a fait un lien avec une autre histoire. C'est les premiers colons aux États-Unis qui sont tout contents d'aller dans la terre promise, qui quittent l'Europe et des conditions vraiment dramatiques ici. Ce n'est pas pour rien qu'ils allaient là-bas dans une terre qui était dangereuse, qu'ils ne connaissaient pas. Et qui sont partis avec un sac de grains, qui les ont plantés. Et puis leur première récolte a été détruite par des problèmes de météo, des problèmes de parasites, d'inondations, ça moisit, enfin, leur graine n'a pas survécu. Et enfin, ils se sont retrouvés dans une famine pas possible. Et ils ont réussi à faire parvenir des demandes pour qu'on leur refasse parvenir des graines plus variées. Et jusqu'à ce que l'Europe arrive jusqu'au lieu où ces colons habitaient depuis l'Europe, que ça avait traversé la mer, les tempêtes, les bateaux ont coulé, il y a eu de la piraterie. Enfin, après, ils ont dû encore traverser toutes ces régions-là. Quand les graines sont arrivées, la plupart des gens étaient en train de mourir de faim, s'ils n'étaient pas morts déjà de faim. Vous imaginez les parents avec des enfants squelettiques, avec, enfin pour eux, enfin, quand ils voient arriver les graines, ils s'imaginent les moudre, faire de la farine et manger. Et en fait, non. Il fallait les planter. Il fallait les prendre dans cette faim, dans ce besoin tellement vital. Parce que sinon, eux, la prochaine génération et les prochaines générations, ben, ils allaient disparaître. Et ça a été un immense pas de foi. Il paraît qu'il y avait des chrétiens aussi qui ont prié. C'était une génération qui comptait plus sur Dieu. C'était terrible de faire ça. Et ils n'avaient en plus aucune garantie que ces graines qu'ils allaient planter allaient pousser. Ça pouvait refaire comme la première fois. Et ça marchait. Il y en a beaucoup qui ont perdu beaucoup de plumes. Puis ça touchait jusqu'aux enfants et aux petits-enfants. Et voilà, c'était vraiment difficile. Mais ils ont eu leur première récolte. Et là aussi, ils ont dû faire très attention de ne pas tout manger pour pouvoir replanter. Et c'est comme ça que c'est une des régions qui est devenue un grenier alimentaire aux États-Unis. Mais c'est le début de l'histoire. Et je me disais, et ce matin, j'ai l'impression que même dans la louange, même au milieu de nous, il y a un côté comme ça qui était présent, de dire, mais c'est vraiment comme ça que Dieu y voit les choses. Dans notre monde, ça a l'air qu'on perd énormément et qu'on y gagne très peu. Mais dans le royaume de Dieu, c'est inversé. En fait, pour Dieu, ça, c'est peu ce qu'on est en train de donner par rapport à ce qu'on va récolter. Et moi, ça m'a tellement encouragée. C'est deux choses que le Seigneur m'a dites et j'ai réalisé qu'avec le temps, j'ai justement, quand je suis en train de prendre sur moi, de reculer, de ne pas avoir raison, de perdre mon temps, mon énergie, enfin, déçue de mon investissement qui ne porte pas de fruits, tout d'un coup, je me dis, attends, tu es en train de faire quelque chose de très, très actif, de très réel. Tu es en train de planter, de perdre, c'est en train de disparaître, d'enterrer. Mais en même temps, c'est la façon, c'est dans le royaume de Dieu, qu'a Dieu de prendre cette chose-là et de la faire fructifier. Et vraiment, je n'ai plus du tout l'impression de ne pas exister ou de perdre. Je me dis, je fais quelque chose de très concret, de très réel. Et puis, je voulais vous apporter cet encouragement aujourd'hui. Voilà.
Merci beaucoup, ma femme. On a souvent l'impression de perdre, disait-elle. Ça peut s'appeler, entre autres, le lâcher-prise. Et j'aimerais terminer avec cela. Moi, je la remercie, mon épouse, pour son interpellation il y a quelques jours en arrière sur cette parabole du grain de blé. Parce que j'ai vécu, et c'est aussi mon témoignage maintenant pour la conclusion, j'ai vécu un épisode bouleversant le 28 avril. Je me suis réveillé avec ce texte biblique qu'elle m'avait partagé. Ça m'avait un petit peu embrouillé, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, sur ce grain de blé. Je me suis réveillé le jeudi matin, 28 avril, c'était vers les 7h et des poussières. Et puis tout d'un coup, j'avais cette parabole. Puis je me demandais ce que venait faire le rappel de cette parabole à ce moment-là, alors que j'étais en débriefing près de Sisteron, à 350 km d'ici. Et j'ai compris que Dieu voulait m'enseigner un principe spirituel très fort par rapport à ma retraite qui arrive à la vitesse grand V. À 9h, ce jeudi 28 avril, je suis arrivé à mon dernier entretien avec mon accompagnateur. Et celui-ci m'a proposé d'aborder des sujets divers à ma convenance. Après avoir vécu lundi, mardi, mercredi, des thèmes que lui-même, en tant qu'accompagnateur professionnel, me suggérait. Et là, j'ai eu à cœur de lui dire ce qui m'est arrivé à 7h et quelques ce jeudi matin-là. Et ce qui s'est imposé à moi, au moment de mon petit-déj. J'avais besoin de lui dire comment j'accueillais cette parabole du grain de blé. Comment je la comprenais, comment l'esprit me convainquait. Car il faut que je précise une chose. Je me suis dit, est-ce que je vous en parle ou pas? Mais je vais vous en parler. Ces temps-ci, je me bataillais intérieurement concernant ma retraite. Je me disais, j'ai donné 43 ans de ma vie pour les autres. Désormais, je vais penser beaucoup plus à moi. Car c'est ma retraite. Cela me concerne directement. C'est à moi de la gérer comme bon me semble. Et j'étais dans le schéma suivant. Avant, c'était pour les autres. Maintenant, c'est pour moi. Mais Dieu m'a repris en me montrant clairement que je n'ai pas des droits sur ma retraite. Alors, j'ai déposé toutes mes revendications. La démarche, je l'ai vécue avec mon accompagnateur. J'avais besoin qu'il soit témoin du démarche. En saisissant que la retraite à venir n'était pas un dû. Vous allez me dire, oui, mais on te doit la VS, on te doit le deuxième pilier. Mais pour le Seigneur, ce n'était pas un dû, mais une pure grâce, une bénédiction du Seigneur qu'il pouvait retirer à tout moment. Par exemple, le capital santé. Alors ma prière, Seigneur, après tout ce que nous avons dit ce matin, je te demande de continuer de bénir le moutardier que je suis, et puis la communauté aussi en tant que moutardier, peu importe sa hauteur. Seigneur, merci de bénir ce qui est devant moi, et puis en nous tous, sur le plan personnel et sur le plan ecclésial. Et puis, j'ai reçu aussi Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Au lieu de me contenter de te dire, Seigneur, bénis mes projets, entre dans mes projets, j'aimerais plutôt entrer, moi, dans les projets que tu bénis. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous dire ce matin à travers cette réflexion. Il y a 10 ans, nous avons accueilli dans nos mains cette petite graine et vous êtes reparti avec ce signet. Avec le temps, cette semence a grandi dans nos vies, dans l'Église. Notre moutardier s'est alors développé en stature, en maturité. 10 ans plus tard, je le crois, il y a une insistance de l'esprit consistant à accepter une vie chrétienne normale, l'intervention du Seigneur beaucoup plus dans une vie chrétienne normale, pour une croissance normale. Nous sommes invités à laisser faire le Seigneur. Notre grain de blé doit être vraiment, comme vous l'avez entendu par mon épouse, il doit mourir, c'est-à-dire la vie reste, mais doit être mise en terre, enterrée, enfouie, cachée, au lieu d'être dans la revendication pour différents sujets que vous pourriez trouver. Moi, c'était ma retraite, à venir. Cela demande un véritable lâcher-prise. Le Seigneur devant nous et nous derrière lui. J'aimerais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse.